Donc, pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes, donc on avance tout doucement dans les premiers versets de la Genèse. Et après avoir vu les deux premiers versets, on arrive au troisième, avec cette histoire de la création de la lumière. Donc, quelqu'un peut me dire comment on traduit en général ce premier verset, enfin ce troisième verset? Vous n'avez même pas besoin de lire le texte, normalement c'est quelque chose qu'on connaît par cœur.
Oui.
Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. On traduit en général par Et Dieu dit. Oui, alors il y a tous les commentaires en dessous, donc il faut passer des pages pour voir la suite. Voilà. Que la lumière soit, et la lumière fut. Or, il y a, avant d'aller voir les commentaires, il y a plusieurs problèmes avec tout simplement la syntaxe de ce verset. Tout simplement, au niveau de la structure narrative, on est bien d'accord que les astres vont être créés au quatrième jour. Donc par définition, la lumière dont on parle ici n'est pas la lumière que nous, on connaît dans notre expérience cosmique, qui est celle du soleil, de la lune et des étoiles. Il n'y a pas d'autre lumière dans notre monde a priori que ça. Une notion de lumière, mais la lumière telle qu'elle est dans notre cosmos, c'est celle-là. Et d'ailleurs, comme vont le relever les commentateurs, il y a un problème de formulation ici, qui est que cette formule « et Dieu dit qu'il y ait telle chose » est suivie dans les autres versets de la deuxième proposition « Vaï, chen » et ce fut ainsi. Ce fut « ken » qui veut dire « comme ça », qui veut dire « oui », signifie étymologiquement, c'est étymologiquement relié à « kan » qui est un trépied sur lequel on pose des choses. Donc c'est quelque chose qui est établi. Ici, on n'a pas ça. On n'a pas Dieu dit que la lumière soit et ce fut ainsi, comme on a dans les autres passages. On a cette particularité que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, comme on traduit en français.
Je suis désolée, mais je ne vois pas le verset. Il est écrit là ?
Ça commence là. Voilà, et ensuite ça continue, page 10. Voilà.
Ah, il est or.
Voilà.
Ok, d'accord.
Et dernière bizarrerie qu'on a, c'est qu'on traduit en français que la lumière soit et la lumière fut. Or en hébreu, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'article à or. Et donc il faudrait traduire en toute rigueur qu'une lumière soit, ou que de la lumière soit, et une lumière fut, ou de la lumière fut. Et c'est à ça qu'il va falloir qu'on s'attache. Et, et autre souci qu'on va avoir, si on prend avec le verset qui enchaîne, qui dit « Vayar Elohim et Haor Kitov, Vayavdel Elohim ben Haor ben Achosher, Vayikra Elohim Lahor Yom ou Lachosher Kar Laila, Vayir Vayivi Boker Yom Echad » Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara entre la lumière et les ténèbres et Dieu appela la lumière jour et l'obscurité il l'appela nuit et ce fut un soir et ce fut un matin jour 1. Donc tout ça c'est une unité de sens. Or là aussi, on a des problèmes logiques, si on est attentif, qui est que...
Merci.
Oui, parce que vous avez.
J'ai plusieurs exemplaires.
Ah, super, tant mieux. Moi aussi, je m'y perds. Que donc, on va nous parler de la séparation entre la lumière créée au verset 3 et l'obscurité. Or, l'obscurité existe déjà depuis le verset 2. Il y a déjà quelque chose qui s'appelle l'obscurité depuis le verset 2. Et ensuite, on va donner des noms à cette lumière et à cette obscurité. On va les appeler jour et nuit. Et après, on va nous parler d'encore une autre notion qui est le soir et le matin, qui sont étymologiquement ARF, qui veut dire le soir, c'est le moment où les choses se mélangent. Et Boker, le matin, c'est au contraire le moment de la distinction. En hébreu moderne, on dit bikoret pour parler de critique. La critique de la raison pure de Kant, c'est bikoret asechel. Donc on a quand même tout un nœud de notions qui n'est pas dont il faut se méfier parce que ça a l'air de renvoyer à des choses qui relèvent de notre expérience littéralement quotidienne. Et en réalité, on voit bien que puisqu'on est avant la création des astres, on ne peut pas parler forcément de la même chose. Donc il faut se rappeler un principe maïmonidien qui est énoncé dans le chapitre 31 de la deuxième partie du Guide des égarés qu'on a déjà évoqué. Qui donne une clé majeure pour interpréter tous ces versets. Il dit, par définition, si on parle de quelque chose dans un verset et que dans un verset suivant, on donne ce nom-là à quelque chose, le deuxième quelque chose est forcément différent du premier quelque chose. C'est clair ? Okay. Donc voilà quel est notre chantier. Et pour déblayer ce chantier, on va travailler avec nos trois compères, nos trois maîtres, qui sont Rashi, Ibn Ezra et Ramban. C'est pour ça que vous avez toutes ces feuilles-là, parce que les commentaires sont répartis sur ces différentes pages. Alors on va commencer par Ibn Ezra. Ibn Ezra, il faut prendre page 9, vous voyez la troisième feuille que vous avez en haut à gauche. Donc il fait une remarque sur laquelle qui ne va pas être l'objet du chiour ce soir, même s'il faudrait qu'on en parle aussi. D'abord sur cette parole divine, Vayomer. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu créé par la parole ? C'est une question fondamentale. Puisque déjà, la notion même de parole divine est problématique. Puisque, par définition, Dieu ne parle pas par des organes physiques. On parle forcément d'une autre façon de parler. Et alors, quand il s'adresse à des êtres humains dans un cadre prophétique, déjà, ça suppose une certaine élaboration de comment est-ce que finalement il y a un mode d'action divine qui fait qu'une parole est entendue par des humains. C'est pas évident. On n'est pas là pour refaire toute la théorie de la prophétie, mais on voit bien que c'est une problématique. A fortiori, ici, quand, a priori, il n'y a pas d'interlocuteur, d'accord, à qui Dieu parle, à qui est-ce que cette parole est adressée. Donc ça, c'est un premier problème. Et donc, Ibn Ezra nous dit « Amara Gaon », donc le Gaon, c'est-à-dire Rav Saadia Gaon, qui est le, à la fois le référent et la tête de turc de Ibn Ezra, puisque c'est le premier grand commentateur avant Ibn Ezra. Et donc Ibn Ezra se situe toujours par rapport à lui. Il dit « Kipirush vayomer kemo vayirtse » que quand on dit « Dieu dit », ça veut dire « Dieu veut ». Et ça, ça lui pose un problème. Veilo Ayakel, c'était ainsi. Hayarou li yot or. Il aurait. Alors, il faut arriver à décoder Ibn Ezra parce qu'il fait un peu exprès de ne pas être explicite. Si c'était le cas, si la parole divine était identique à la volonté divine, alors, littéralement, il aurait convenu que la lumière existe. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de regarder dans les commentaires de Ibn Ezra, mais je pense que ce qu'il veut dire profondément, c'est que la pure volonté divine, non exprimée, par un acte d'expression, parce que la parole c'est un acte d'expression. Donc si on dit non, mais il ne faut pas prendre la parole divine au sens littéral, mais il faut l'interpréter comme la volonté divine, alors à ce moment-là, la différence entre la parole divine et la volonté divine, c'est que la volonté divine, elle est toujours déjà là. Contrairement à la parole divine qui est un événement, une éruption. Dans un ordre des choses. Et donc, il dit, si toute parole divine était juste une façon de dire « Dieu veut », alors « Dieu veut de toute éternité », il aurait fallu que la lumière soit là de toute éternité. Donc, il dit, au contraire, on est bien obligé de distinguer entre une volonté éternelle de Dieu et l'expression de cette volonté dans le temps. Et donc c'est pour ça, il dit Raghu Kemashmaro, et donc c'est pour ça qu'il faut le prendre au sens littéral, qu'il y a quelque chose qui s'appelle parole divine, qui ne peut pas être ramené à la volonté divine, qui est l'expression de la volonté divine, c'est autre chose. Et dit-il, Vechen bidvar Hashem shamaim na'asu, quand on dit par la parole de Dieu, les cieux ont été faits. Kiutsiva venivrahu, parce qu'il a ordonné et ils ont été créés, donc au sens où il y a bien la position d'un acte dans le temps, et qu'il y a donc une création de la lumière comme il y a une création du monde. Ça nous renvoie en fait aux discussions qu'on a eues précédemment, au premier cours, qui était que Ibn Ezra d'ailleurs comprend comme Rashi. Que le premier verset ne parle pas d'une première étape qui serait la création du ciel et de la terre, et ensuite d'une deuxième étape qui serait la création de la lumière, mais que le premier verset est un verset introductif qui nous dit au principe, comme principe directeur, c'est comme ça qu'on l'a traduit, de la création du ciel et de la terre, Dieu crée la lumière. Et donc c'est très important ici, si on fouille dans Ibn Ezra, c'est qu'il vient nous dire que non seulement le ciel et la terre ont été créés en premier, le ciel et la terre ont été créés, d'accord, dans le temps, il y a un moment où le ciel et la terre n'existaient pas, mais la lumière qui préexiste à la création du ciel et de la terre, puisque c'est le principe directeur, elle aussi, elle est créée au début du temps. Mais on ne parle pas d'une lumière qui serait existante de toute éternité. Parce que de fait, et en réalité, je pense que derrière ça, il y a beaucoup de débats qui ont leur parallèle dans la tradition islamique. Et tout ça, c'est tout un héritage philosophique très ancien. C'est-à-dire, si... on dit que, comme on dit dans le Midrash, que Dieu a créé la Torah avant le monde, et que Dieu a créé le monde en prenant comme modèle la Torah. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que cette Torah comme parole divine? Est-ce que elle est, pour le dire dans les termes de débat islamique classique, est-ce que le Coran est créé ou incréé? Est-ce que finalement la Torah, pour reprendre nos termes, est-ce que la Torah est coéternelle à Dieu? Ou est-ce que la Torah est aussi une création divine qui se place en amont de la création du temps tel que nous on le comprend, mais qui quand même se place dans une hiérarchie qui n'est pas temporelle, mais qui est quand même d'un ordre logique, quoi. On ne va pas rentrer là-dedans, mais il y a beaucoup d'articles, notamment sur cette notion de parole divine, identifiée ou pas à l'intellect divin comme première hypostase. C'est-à-dire comme première manifestation de la divinité en aval du Dieu infini et absolument au-delà de toute manifestation. Et je pense que c'est ça qui vient travailler ici, et c'est quelque chose qu'on retrouvera dans toute l'histoire de la Kabbale après comme débat. Il vient nous dire, il y a quelque chose qui s'appelle lumière, qui est donc au principe, d'après Ibn Ezra, de la création du ciel et de la terre, et de tout ce qui existe, et qui est donc l'expression de quelque chose de divin, d'un pouvoir créateur divin, mais ce pouvoir créateur divin est lui-même une créature. Et on n'est pas, comme dans certains modèles théologiques, avec finalement différentes instances divines, différentes personnes divines, où il y aurait, si vous voulez, Dieu le Père et Dieu le Fils, quoi. Pour le dire
C'est
clairement.
en fait en train de créer la possibilité qu'il puisse créer les lumières, hein, dans ce que vous dites, si je comprends.
C'est-à-dire qu'il y a un état de l'être divin qui existe en amont de la lumière divine. Pour le dire très, très simplement, vous voyez dans les textes kabbalistiques, dans chez Rabbi Yitzhak Luria, on nous dit au début de la avant que Dieu crée le monde, il y avait une lumière simple qui remplissait tout l'univers, et ensuite cette lumière s'est rétractée, et c'est dans le vide qui a été créé par ce tsimtsum que ensuite il y a eu un réinvestissement par la lumière et que les différents mondes ont été créés. Et il y a tout un débat chez les commentateurs de savoir est-ce que cette lumière infinie c'est Dieu, d'accord? Est-ce que ce Or En Sof c'est En Sof, ou est-ce que ce Or En Sof est déjà une manifestation de l'En Sof, mais n'est pas l'En Sof lui-même. Et là, il prend clairement l'option que oui, il y a plusieurs hypostases, pour parler en langage philosophique. Il y a Dieu, et il y a l'acte de parole divine, qui n'est pas ramenable à la volonté divine éternelle, un acte dans le réel. Et que cet acte crée la lumière, et qu'ensuite, par cette lumière, il y a tout le reste qui va être créé.
Moi, j'ai entendu dire que avant ce monde-là, il y avait d'autres mondes que Dieu a créés qui ont échoué.
Alors ça, on en parlera après, mais effectivement, c'est une notion qui existe aussi. Mais savoir est-ce que ces mondes créés sont dans nos versets ou sont en amont de nos versets, c'est une autre question. Mais de fait, pour Ibn Ezra, ce qu'on a vu aussi, ce qui est très spécial, c'est que pour lui, les versets, et c'est tellement spécial qu'il a été accusé d'hérésie par ses successeurs, c'est que nos versets ne nous parlent pas de la création de tout le réel, ils ne nous parlent que de la création du monde visible. Mais en même temps, là, on voit un peu avec la lumière qu'il joue sur les deux, quoi. C'est-à-dire qu'en tout cas, il ne veut pas identifier cette lumière avec une volonté divine éternelle, il veut en faire une création. Et donc il dit, donc Ve'atam kinui al maaseh shelo haya beyegia. Pourquoi est-ce que cet acte divin, on le désigne comme parole, alors que évidemment il ne s'agit pas de l'émission de son dans un espace sonore qui n'existe pas encore, et pour une parole qui ne s'adresse à personne. C'est juste une manière métaphorique de dire que c'est un acte sans effort. Valderech Machal, Melech ou Mesharetav. De la même manière qu'un roi agit simplement en parlant à ses serviteurs. Alors là aussi, je pense que chez Ibn Ezra, mais il faut toujours décoder Ibn Ezra, c'est terrible. Il vient nous dire quelque chose, c'est qu'il nous a dit dans un verset précédent que pour ce qui est de la création du monde physique, qui pour lui est l'objet de ces versets-là, la création se faisait par l'intermédiaire des anges. C'est-à-dire que les anges peuvent être définis comme, on va dire, des forces physiques fondamentales, et que le monde tel qu'on le connaît est créé parce que Dieu ordonne aux anges d'agir de telle et telle manière. Et donc, là aussi, dans sa logique, ça fonctionne bien de dire que c'est une parole qui est adressée à des anges qui, eux, vont mettre en œuvre, et que pour autant, ça ne veut pas dire que ce sont les anges qui sont créateurs, de la même manière que quand c'est un roi qui ordonne et que ce sont ses serviteurs qui exécutent, c'est bien le roi qui agit à travers ses serviteurs. Et ensuite, il rajoute encore une petite remarque. Vezé ha'or aya le ma'ala min ha'ruach. Cette lumière était au-dessus de l'air, en fait, il faudrait traduire comme ça. Parce que toujours dans sa logique, on est en train de dire qu'on ne parle que de la création du monde physique. Et que donc, de la même manière que dans les versets précédents, on nous a parlé de l'eau et du vent et de la terre. Donc ici, la lumière dont on parle, en réalité, c'est l'élément feu. Puisque tous les commentateurs font ça, ils essayent de retrouver les quatre éléments, puisque c'est ça qui les... Ils ont une lecture physique, selon les outils physiques de leur époque. Donc ils essayent de retrouver ces éléments. Et pour lui, la lumière, en fait, c'est l'élément feu. C'est pour ça qu'elle est au-dessus du souffle, puisqu'on a cette cosmologie où la terre est en bas, et l'eau est autour, et l'air est autour de l'eau, et le feu est autour de l'air.
Il n'avait pas dit dans le verset d'avant que, comment sur le feu, il était noir.
Non, ça c'était Ramban. Ça c'était Ramban. Faire bien attention. Effectivement, Ramban, lui, avait identifié le feu, puisqu'il faut absolument qu'il soit là, puisqu'on parle des trois autres éléments, à l'obscurité qui était mentionnée dans le verset précédent, de manière paradoxale, mais je rappelle rapidement pourquoi. Puisque dans cette structure générale du cosmos, le feu est au-dessus de l'air, ça suppose nécessairement que ce feu élémentaire soit non lumineux, puisque sinon, la nuit, on verrait un ciel complètement embrasé. Okay. Je ne refais pas tout le truc, mais c'était ça l'idée. Et c'est chez Maïmonide, en fait, cette idée-là. Mais bon, Ibn Ezra, lui, ça ne lui pose pas plus de problèmes que ça. Okay. Alors maintenant, on va faire Rashi. Et Rashi, vous allez voir qu'il part complètement sur autre chose. Ibn Ezra, on peut dire, il a une démarche philosophique, mais il essaye de rester le plus proche des mots. Et Rashi, il va avouer sa défaite littéraliste, en quelque sorte. Puisqu'il nous dit, donc là c'est page 10 suivante, « Vayar Elohim et haor kitov vayavdel » etc. Donc Dieu vit que la lumière était bonne et il la sépara. Et il dit « Av beze anus rechim le divrei Haggadah » même de la même manière que pour le premier mot du verset de Bereshit, on avait besoin de recourir à des interprétations non littérales, ici aussi on a besoin de recourir à des interprétations non littérales. Puisque cette question de la séparation en soi de la lumière et des ténèbres est problématique. Puisqu'en réalité, on ne peut séparer que des choses qui sont mélangées. Or, si on définit, comme c'est indiqué dans les notes, je pense que la note est assez juste. C'est le REM qui fait ça. C'est pas juste l'éditeur, c'est le REM, Rabbi Eliyahu Mizrahi, qui est un des grands commentateurs de Rashi. Il dit, si l'obscurité n'est autre que l'absence de lumière, a priori. Donc, on ne peut pas séparer la lumière de l'obscurité, puisque, de toute façon, elles ne peuvent pas coexister. Dès lors qu'il y a de la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Donc, il va falloir comprendre, nous dit Rachid, qu'est-ce que c'est que cette séparation. Il nous dit, « Ra'ahu she'eno kedai le'ishtamesh bo resha'im » Dieu a vu, on va voir ce que ça veut dire, il a vu, que cette lumière-là était trop noble pour que s'en servent les méchants. « Ve'hivdilo la tzadikim le'ardid lavo » Et il l'a séparé, au sens de réservé, pour les justes dans le monde futur. Ou les fipshuto, ken pirshehu, et selon le sens littéral, voilà comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Mais donc on voit bien que ce n'est pas satisfaisant pour lui. Rahu kitov en nahelo ve lachosher sheyu mishtameshim beirbuvia, ve kava laze tehomo beyom, ve laze tehomo balayla. Il a vu que la lumière était bonne et qu'il ne convenait pas qu'elle serve avec l'obscurité dans un mélange, dans un grand mélange. Et donc, il a fixé à chacun son domaine. La lumière a pour domaine le jour et la nuit, l'obscurité a pour domaine la nuit. Bon, ça, c'est une paraphrase du verset, mais on comprend bien qu'en fait, ça ne veut pas dire grand-chose à ce niveau-là. Et en tout cas, Rashi nous met bien l'accent sur le fait que cette lumière-là dont on parle n'est pas la lumière que nous, on connaît. C'est une lumière qui a existé dans les premiers jours de la création et qui ensuite a été réservée pour les justes dans le monde à venir. Donc on comprend pas vraiment ce que ça veut dire pour l'instant, mais... Mais le Ramban va nous avancer là-dessus. Alors on va sauter un petit peu parce que là il reprend. Vayihor, donc c'est la page précédente 9 au milieu de la colonne de Ramban ici. Et donc il dit Lo amar vayichen, et donc il a, comme je vous l'avais dit, le verset ne dit pas et ce fut ainsi. Kamol Beshar Hayamim, comme ça a été dit pour les autres jours, les fiches Elo Amad Hor Bitruna Azot Kol Hayamim Keshar Maase Bereshit. Du fait, cette lumière-là n'a pas persisté dans sa configuration initiale le long de tous les jours de la création, comme ce sera le cas pour ce qui va être créé les autres jours. Puisque de fait, ça va être remplacé, a priori, à partir du quatrième jour, par une autre lumière, qui est la lumière des astres. « Veyesh le rabotenu beze midrash besod ne'elam » Et donc, il dit, les sages ont, à ce sujet-là, un secret bien gardé. Alors, la note dit que ça renvoie à ce qui est dit dans un texte kabbalistique, ça fait Sefer Abeir, qui est la source principale en Kabbalah de Rambam. Mais en fait, cette source-là, elle dit les disques d'Hirachi, en fait. C'est assez marrant de voir que Ramban qualifie de grand secret ésotérique quelque chose que Rashi dit, mais Rashi le dit de manière à ce qu'on ne comprenne rien du tout, donc finalement ça tombe bien. Okay. Et alors après, il part dans autre chose. On s'arrête là. Il part complètement dans autre chose qu'on va faire après. Mais avant, je veux qu'on analyse cette histoire-là de finalement qu'est-ce que c'est que cette lumière créée au premier jour qui ne va pas servir dans la suite de l'histoire cosmique et humaine. Qui pour autant est le principe directeur de la création, comme on l'a établi, et qui de ce fait-là est une des expressions les plus hautes de la volonté divine, comme nous l'a suggéré Ibn Ezra. Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Alors, c'est vrai que dans la mesure où le Réchit a été identifié par Rashi justement sur le mot même de Bereshit à la Torah. Donc on peut faire une équation que cette lumière primordiale, c'est la Torah. Ça, entendons-nous bien, quand on dit Torah ici, ça ne veut pas dire le texte de la Torah tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça veut dire la Torah comme instance, c'est-à-dire comme parole totale divine, qui est l'expression de la sagesse et de la volonté divine infinie. Mais je pense que cette lecture-là est induite par Rashi, par cette remarque toute bête, qui est ces mots-là qui nous dit « Av beze anus rechim de divrei Agada », c'est-à-dire du fait qu'il dit « Là aussi, on a besoin de recourir à la Agada », sachant que la seule fois où il l'a dit avant, c'était sur cette histoire où le Réchit de Bereshit était identifié à la Torah, je pense qu'il fait une allusion à un rapprochement entre ces deux notions-là, qui de toute façon fonctionne d'après le pshat qu'il a construit. Alors, heureusement, on a un commentateur formidable, qui s'appelle Rav Moshe Alcher, de la fin du XVIe siècle, à Tzfat, qui est un des plus grands commentateurs de Pshat. Alors, ce qui est assez marrant, si je peux me permettre...
Juste, comment on sait que cette lumière ne va pas servir dans l'aventure humaine ? C'est quand Rashi dit que ce sera pour les tzadikim dans le monde futur ?
Voilà. Mais parce qu'en fait, la logique est tout simple. Elle est que vu que cette lumière-là est créée avant les astres...
La lumière qu'on connaît, c'est les astres. Voilà. Cette lumière-là, elle est... C'est pas la lumière qu'on connaît, mais ça veut pas dire qu'elle n'existe pas.
Oui, c'est. Non, ça veut pas dire qu'elle n'intervient pas, effectivement. Mais ouais. qu'on n'en a pas une expérience quotidienne, en tout cas.
Que c'est pas la lumière qu'on connaît.
Voilà.
C'est tout ce qu'on peut dire.
Oui, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais alors maintenant, il va falloir comprendre c'est quoi. Donc, Rav Moshe Alcher, vous allez voir, ce qui est très bizarre, c'est que c'est un commentaire très. Finalement très kabbalistique dans le fond, mais il était contemporain, c'est la grande époque de Safed. C'est les années 1560-1570, c'est l'époque où à Safed, il y a Rabbi Yosef Caro, il y a Rabbi Moshe Cordovero, il y a Rabbi Yitzhak Luria, il y a Rabbi Chaim Vital. Et tout le monde est à fond dans la Kabbalah à cette époque-là. C'est la capitale mondiale. Et les plus grands maîtres sont là-bas, et Rabbi Yosef Caro, le grand halachiste, est aussi à fond dedans. Et on a un témoignage de Rabbi Chaim Vital qui nous dit que Rav Moshe Alcher, pas tant que ça. Or, à cette époque-là, Rabbi Chaim Vital, selon l'enseignement de son maître Rabbi Yitzhak Luria, réaffirme, à la suite de Rabbi Moshe Cordovero aussi, que l'étude de la Kabbalah est obligatoire, puisque la Kabbalah, ça fait partie intégrante de la Torah. Or, tout le monde a l'obligation potentiellement d'étudier toute la Torah, Donc on ne peut pas dire, moi je ne m'intéresse pas à la Kabbalah, de la même manière qu'on ne peut pas dire, moi je ne m'intéresse pas au Chumash, je ne m'intéresse pas à la Gemara, ce n'est pas possible. Et donc, non seulement ça, mais Rav Moshe Asher, ce n'est pas juste un commentateur du Chumash dans son coin, c'est une immense, immense autorité, puisque à cette époque-là, il y a des tentatives, il y a une tentative de réinstaurer le Sanhédrin, dirigé par Rabbi Moshe Berav, qui donc ordonne, avec ce qu'il considère être lui la vraie ordination rabbinique telle qu'elle a été transmise de génération en génération depuis Moïse, et il ordonne un certain nombre de personnes. Parmi ces personnes-là, il y a Rabbi Yosef Karo, il y a Rabbi Chaim Vital, et il y a Rav Moshe Asher. Okay? Donc c'est une personnalité qui est considérée par ses pairs d'une plus grande génération d'histoire juive comme quelqu'un qui pourrait siéger à la Cour suprême, quoi. Okay? Et donc on pose la question à Rabbi Chaim Vital, mais attends, toi tu nous dis que tout le monde doit étudier la Kabbalah, et voilà, il y a Rav Moshe Asher, juge de Sanhédrin, etc., lui il n'étudie pas. Et Rabbi Chaim Vital, il dit, non, mais lui, il n'a pas besoin parce qu'il a déjà étudié toute la Kabbalah dans une vie antérieure, donc ça, il a déjà fait, c'est bon. Et de fait, on voit que, ok, il n'étudie pas la Kabbalah, mais il comprend de quoi on parle. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette page-là, ce n'était pas la peine. Donc là, on prend cette page Vav que vous avez, celle d'après. Ah, c'est là que ça s'arrête.
Oui,
non, je dois avoir ça. Il y a tellement de pages ici. Regarde. Il y a une vague là.
Ah, mais du coup, vous
non,
en
non,
avez
non,
une.
Moi je suis pas. Je ne suis pas hier sans voyage. Alors,
mais
non.
Ah, mais
ça
aussi, on
se
entend.
On
s'entend.
C'est pas lui-même qui le dit. C'est pas Rav Moshe Asher qui le dit. C'est Rabbi Chaim Vital qui dit ne l'embêtez pas, moi je sais.
Pour se sauver de son témoignage ou
Non, je pense qu'il le croit, et de fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas du tout dans la citation de texte kabbalistique, mais c'est clair qu'il comprend très bien les enjeux du discours kabbalistique, quoi. Bon, alors. Toi, tu as la page Vav, c'est bon? Donc au début, il reprend Ramban, hein, mais à Raoul Yom. Donc, il aurait convenu qu'on dise Vayichen, et ce fut ainsi, et qu'on ne répète pas la lumière. Ar Haya. Il dit, parce qu'en réalité, voilà. Ar Haya, Uma Gam Lomar Kizei Haya Or Luchani. Parce qu'en réalité, cette lumière-là, elle existait déjà. Et même si on dit que c'était une lumière spirituelle, et là on voit qu'il est en débat avec Ibn Ezra, en réalité. Cette lumière-là, il n'était pas nécessaire qu'elle vienne à l'existence par le truchement du souffle de la bouche de Dieu, comme tout le reste de la création, comme le disent le verset. Parce que quand Dieu dit lumière, la lumière est déjà là en réalité. Alors, je sais que ça paraît. Mais en tout cas, il prend le contre-pied de Ibn Ezra en disant, bon voilà, Ibn Ezra, c'est son truc, de toute façon, lui, après, il en identifie la lumière au feu, donc évidemment, c'est une création matérielle, mais si maintenant, on n'est pas dans ce cadre matérialiste d'Ibn Ezra, alors, en réalité, cette lumière, elle préexiste à toute la création, donc elle ne peut pas être mise sur le même plan de l'œuvre créatrice que tout ce qui a été créé par la suite. Et que cette lumière-là, elle est l'expression d'une parole divine, mais en quelque sorte, elle est déjà présente. Alors, il nous explique comme ça. Vene mi midrashaba amru rabotenu zal novelet ora shel ma'ala galgal hama. Que dans Bereshit Rabba, on nous dit que le disque solaire est juste un nouvel, c'est comment dire, c'est des choses qu'on glane, c'est des petits restes, comment on traduirait nouvel, c'est des glanures, c'est-à-dire c'est un petit quelque chose par rapport à ce que c'est. Le disque solaire est une expression infiniment faible de ce qu'est la lumière d'en haut. Il dit chez où que Mahamar Ramban qui met à or chez Nivra Beshechet et Mibelchit, Nimshach le Nivra Menu Orachama. On va le voir chez le Ramban que, de fait, pourquoi ça s'appelle quand même lumière? Parce que la lumière du soleil dérive, en quelque sorte, avec beaucoup de degrés intermédiaires, de cette lumière suprême. Et donc c'est pour ça que, donc, du fait que on est obligé de distinguer deux lumières, la lumière d'en haut et la lumière du soleil, on peut lire cette répétition de que la lumière soit et la lumière, enfin qu'une lumière soit et une lumière fut, en distinguant une lumière supérieure qui finalement est identique à la parole qui dit qu'une lumière soit, et une lumière inférieure qui est la lumière du soleil, qui est celle qui sera par la suite. D'accord ? Et donc il est en train de nous dire ici, en fait, ce qu'on a déjà préparé, que la lumière d'en haut est identique à la parole créatrice divine elle-même. Et que c'est cette lumière, parole créatrice, qui, à travers divers degrés, donnera finalement naissance à ce que nous, on appelle lumière. Et maintenant, il va développer tout ça. Od amru rabotenu, bebereshit rabba, Rabbi Shimon ben Yehotzadak, shal Rabbi Shmuel ben Nachman, amar lo, mipnei shesharmati alecha sheata ba'al agada, meecha nivret haora. Alors, ça, c'est un passage qui est très connu. Au Rabbi Shimon ben Yotzadak demande à Rabbi Shmuel bar Nachman. Il dit, j'ai entendu dire de toi que tu étais un spécialiste de la Haggadah. Alors dis-moi, à partir de quoi a été créée la lumière? Amarlo melamed shinit atef ba kadosh baruch hu kesimla, kesalma plutôt, ve ivig ziv hadaro mesof ha'olam ve'ad sofo. Ça nous enseigne, qu'est-ce qui nous enseigne? Clair, un instant, que Dieu s'est enveloppé de cette lumière comme d'une étole et a fait rayonner, a fait percer le rayonnement de sa gloire à lui d'un bout du monde à l'autre. Amarlo balechisha. Et il lui a dit ça en chuchotant, à voix basse. Amarlo mikramale. Mais pourquoi tout ce que tu me dis, c'est un verset explicite dans les psaumes. Ote or kasalma. Il s'enveloppe de la lumière comme d'une tunique, comme d'une étole. Veat omer li belechisha. Alors pourquoi est-ce que tu me le dis à voix basse, si finalement tu fais que me paraphraser un verset? Amarlo keshem shesharmatia belechisha, kach amartia lecha belechisha. Il dit, de la même manière que moi, on me l'a transmis sur le mode du chuchotement, je te le transmets sur le mode du chuchotement. Et maintenant, il va interpréter ce passage-là qui est pas évident. En réalité, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il pose la question? C'est quoi cette question à partir de quoi a été créée la lumière. Le principe même de tous ces versets-là, c'est de nous parler de la création ex nihilo, a priori. Donc la question de dire à partir de quoi a été créée la lumière, elle est inutile et c'est même un contresens par rapport au texte, a priori.
Ça sous-entend qu'il y a des choses qui préexistent.
Voilà.
La lumière et qui la constituent.
C'est ça, ça suppose. Il y a quelque chose avant la lumière et à partir de la lumière, Dieu a créé quelque chose. Mais là, d'où vient cette question ? C'est-à-dire, on est au troisième verset, on est a priori dans un récit de la création ex nihilo. La lumière, c'est la première chose qui a été créée, apparemment, ou alors il y a eu le ciel et la terre avant, mais...
Le ciel et la terre, justement, c'est pas justement à partir du ciel la lumière. Enfin, on peut dire ou à partir de la terre la lumière, c'est... Mais on a un substitut dans le premier verset. On a quelque chose qui peut être constituant.
C'est ça, on a deux lectures possibles. Soit le ciel et la terre ont été créés en premier, et donc on les a définis d'ailleurs chez Nachmanide comme deux matières premières du matériel et matières premières du spirituel. Donc soit ça, okay. Mais à ce moment-là, bon, la question elle est évidente, presque évidente, quoi. Ça a été créé à partir du... Oui, effectivement, a priori ça a été créé à partir du ciel, si on est là-dedans. Je vois pourquoi tu poses la question. Et si c'est la lumière qui a été créée en premier, alors c'est presque hérétique de demander à partir de quoi a été créée la lumière. Vegam la mazeshal beora, velo bechol yeter advarim shenivrau. Et donc pourquoi à ce moment-là tu poses la question sur la lumière, pourquoi tu poses pas la question sur tout le reste, d'accord ? Pourquoi tu poses pas la question sur le ciel et la terre, pour le coup ? Vod omro milamed shenit atef. En plus, donc le texte il dit. Ça nous enseigne qu'il s'est enveloppé. Ki halo be omro melamed ireshiu ke meforash u mochar bakatuv she melamedenu ze vealo en be mashmao shum davar ze. Qu'est-ce qui nous enseigne ? C'est notre verset de deux choses. Soit c'est notre verset dans la Genèse, soit c'est le verset des psaumes. À ce moment-là, comme il lui dit, mais en fait, tu fais que me répéter le verset des psaumes, j'apprends rien. Et d'ailleurs, on va voir que ça ne fonctionne pas comme ça. Soit c'est les versets de la Genèse, puisque c'est quand même là-dessus que comporte la question. Et d'où est-ce que nos versets nous apprennent que Dieu s'est enveloppé de la lumière comme d'une étoile et qu'ensuite ça a fait un rayonnement. Ça ne marche pas. Ve'od ma'inyan à Salma. Et c'est quoi cette toge ? Cette étoile. Ve'er hitzadek boit barach ituf. Et ça veut dire quoi? Que Dieu s'enveloppe. Ve'lama livro aora hutzrach lechose. Et pourquoi, précisément pour la lumière, il y a besoin de tout ce processus, que Dieu s'enveloppe, etc. Déjà, on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais on ne comprend pas non plus l'économie du truc. Ve'od omro hivik ziv adaro velo amar hivik ora. Et qu'est-ce qu'on nous dit bien ici? Que ça fait donc rayonner, diffracter, on a envie de dire, le rayonnement de sa splendeur à lui, à Dieu, à Daro, au masculin, et non pas que ça a diffusé sa lumière, que ce soit la lumière de la tunique, pas la lumière de la tunique a priori, parce que c'est la. Si on se figure ça, voilà, on s'imagine Dieu s'enveloppant de la lumière comme d'une tunique, et ensuite cette tunique lumineuse diffuse. Okay, mais là, on parle pas de la, a priori, on ne parle pas de la lumière de la tunique, on parle de la lumière de Dieu, puisque c'est au masculin et pas au féminin. Ve'od omro sheze ma'amar akatuv ote or kasalma. Et donc ensuite, il nous renvoie au verset des psaumes où il se revêt de la lumière comme d'une toge. Qui a l'eau yéré behéfer, qui ou amar qui me atifat à samla nivra or, la katouva mer, chez haïtou faya beor esmo. Or, le verset a l'air de dire l'inverse. C'est-à-dire que ce que lui dit, c'est qu'il s'enveloppe d'une tunique et que c'est ça qui crée la lumière. Puisque c'est ça que la question qui a été posée. La question qui a été posée, c'est d'où a été créée la lumière ? Il répond, Dieu s'est enveloppé c'est enveloppé comme d'une tunique et ça fait une diffusion d'un bout du monde à l'autre. Et c'est, sous-entendu, c'est comme ça qu'a été créée la lumière. Or, le verset nous dit qu'il s'est enveloppé de la lumière. Donc la lumière, elle est là avant le... Elle est, c'est pas le rayonnement. T'as pas répondu à la question si tu cites ce verset-là. Dans le verset, la lumière, elle existe déjà. Omnam hine da'ato. Voilà, là, il répond maintenant. Hine da'ato ki aura azot hayeta ruhanit. Sa conception, c'est que la lumière dont on parle, elle est spirituelle. Kemoshe amru, comme il est dit dans le traité Chagiga, Shaya Adam Roeba Misof Aolam Ve'at Sofo. Parce que c'est cette lumière-là, cette lumière primordiale, permettait à l'homme de voir l'ensemble du réel. La lumière primordiale, le traité Chagiga du Talmud, nous dit que ça permettait à l'homme, au premier homme, de voir d'un bout du monde à l'autre. Autrement dit, ça lui permettait de contempler l'ensemble du réel. Okay. Alors il va expliquer. Ve'al shelo zachu adorot, leishtamesh ba nigneza kemo shamru chazal. Et c'est parce que les générations suivantes n'étaient pas dignes d'en faire usage qu'elle a été cachée. Donc là, on rejoint ce que disait Rashi. Donc pourquoi est-ce que ça veut dire qu'elle était... je ne sais plus s'il l'explique. C'est ça. D'accord ? Je ne sais plus si c'est lui qui l'explique ou si je l'ai lu ailleurs. Mais c'est assez clair. C'est-à-dire, finalement, c'est quoi la lumière ? La lumière, c'est quelque chose qui va être un intermédiaire entre nous, entre le sujet humain et la réalité objective, qui va lui permettre de savoir, de connaître en quelque sorte l'existence de la réalité qui l'entoure.
On parle de la réalité visible.
Voilà, au sens de la lumière du soleil, c'est ça qui nous permet de voir les objets autour de nous, d'accord, de savoir qu'il y a un monde au-delà de notre peau immédiate, quoi. Et d'ailleurs, c'est la vraie lumière. Chez Aristote, dans le traité de l'âme, il y a justement un parallèle qui est fait entre la lumière oculaire, on va dire, et la lumière intellectuelle. Il dit finalement comment ça fonctionne. C'est qu'il y a un milieu qui existe entre les objets et nous, qui s'appelle diaphane. Un milieu diaphane, c'est-à-dire qu'il laisse passer la lumière, il n'est pas toujours illuminé, mais il y a un milieu qui laisse passer la lumière, et donc il y a, de ce fait-là, il y a un potentiel de vision, et quand la lumière est présente, ce potentiel de vision s'active, qui met en contact notre sens de la vue et les objets. Et dit-il, au niveau de l'intellect, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que il y a, hors de notre intellect, des objets à connaître, à penser, et que nous avons une disposition à connaître, parce que nous sommes des êtres doués d'intellect, mais que pour autant, c'est pas parce qu'on est doué d'intellect qu'on connaît tout, et donc il est nécessaire qu'il y ait une instance analogue à la lumière qui fasse passer cette potentialité de notre intellect à l'acte. C'est ce que lui appelle l'intellect agent, qui est une sorte de lumière intellectuelle qui nous rend visible intellectuellement les choses de l'intellect. Quoi. Et donc, en réalité, le fond qu'il y a dans toutes ces discussions, c'est ça. C'est que cette lumière intellectuelle, c'est cette lumière qui permet à l'intellect humain de connaître les choses. Et donc, la grande différence qu'il y a entre la lumière physique et la lumière de l'intellect, c'est que la lumière physique, elle est forcément limitée par l'espace. D'accord ? Et avec la plus grande lumière possible, la capacité visuelle humaine est limitée. D'accord ? Parce que si on nous dit, voilà, cette lumière-là, elle permettait de voir d'un bout du monde à l'autre. Oui, mais tu peux avoir la plus grande lumière possible. Si on parle d'une vision physique, il y a les limitations du corps humain qui fait qu'on ne peut pas voir avec le meilleur éclairage possible d'un bout du monde à l'autre. Donc, quand le Midrash nous dit que la lumière primordiale permettait à l'homme de voir d'un bout du monde à l'autre, c'est qu'en réalité, que c'était une lumière intellectuelle qui lui permettait de connaître l'intégralité du réel dans un seul acte d'intellection. Et que donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que cette lumière-là, on l'a perdue, et que finalement, la lumière visuelle est un substitut de cette lumière intellectuelle. Et on pourrait presque aller jusqu'à parler des différents modes de connaissance chez Spinoza. Spinoza est très utile là-dessus dans le traité de la réforme de l'entendement humain. Il dit qu'il y a trois modes de connaissance. Il y a un mode de connaissance par oui-dire, qui n'est pas vraiment un mode de connaissance, qui est juste de transmission d'opinion. C'est-à-dire, si je vous dis que je sais pas, que
la réforme d'Athènes, c'est bien.
Là, c'est encore autre chose, parce que là, c'est encore une connaissance pratique. Mais même dans des connaissances scientifiques, si je vous dis que la matière est constituée de protons et d'électrons et de neutrons, et que ces particules sont composées de quarks, etc., etc., vous me croyez parce que je vous le dis avec une certaine autorité, et parce que moi, je l'ai appris à l'école et qu'il y a une troisième chose. Mais en réalité, j'en sais rien. D'accord, je n'ai pas de connaissance. Moi, en tant que non-physicien, je ne peux pas prétendre avoir une connaissance scientifique de ça. Je l'admets parce qu'il y a des gens dont c'est le métier de savoir ça qui me l'ont dit, donc je les crois. Mais c'est, finalement, pour moi, c'est une croyance. Ensuite, il y a un deuxième mode de connaissance qui est un mode de connaissance expérimental, qui est que j'observe des effets. Et des effets, je remonte aux causes. Et c'est le mode de connaissance de la science physique aujourd'hui. D'accord ? C'est-à-dire qu'on met en place des dispositifs expérimentaux et on observe des effets. Et ensuite, à partir de ces effets, on affine une théorie physique pour déterminer pourquoi est-ce que ça marche comme ça. Et il y a, dit Spinoza, un troisième ordre de connaissance qui est le plus élevé et qui est très difficile à atteindre, qui est un mode de connaissance apodictique, c'est-à-dire de raisonner des causes aux conséquences. Et donc ça suppose de connaître d'abord la cause première de tout et ensuite d'être capable de déduire depuis la cause première, toute la chaîne des causes, et de déduire toute l'architecture du réel à partir de ça. D'accord ? Et ça, c'est le grand projet philosophique. C'est, par exemple, ce qu'essaye de faire sous un autre mode Hegel. Okay. Et en réalité, on peut dire ici que ça fonctionne un peu pareil. C'est-à-dire que la lumière intellectuelle primordiale, qui se trouve être dans paradigme qu'on a construit, aussi le principe directeur de la création, nous permet d'avoir une connaissance directe du réel. On connaît le réel, non pas parce qu'on l'expérimente par les sens, mais parce qu'on en a une connaissance totale par l'intellect. Et que c'est cette connaissance-là qui est perdue dans la suite de l'histoire, et on se retrouve avoir une connaissance qui est finalement renversée. On part des causes pour aller aux effets. Donc on part de l'expérience sensorielle pour aller aux idées. Et il y a le Malbim d'ailleurs a un beau commentaire là-dessus dans le livre des rois à propos de la compétition entre le prophète Élie et les prophètes de Baal. D'accord, vous rappelez la scène où le peuple hésite entre l'un et l'autre et le prophète Élie leur dit jusqu'à quand vous allez passer d'un pied sur l'autre sans arriver à vous décider, soit c'est Hachem, soit c'est Baal, mais c'est pas possible les deux, d'accord, il faut que vous fassiez un choix. Et donc pour les aider à faire un choix, on organise une compétition, on construit des autels avec des sacrifices dessus, et on n'a pas le droit d'allumer un feu, et le sacrifice qui sera consumé par un feu céleste prouvera que c'est d'abord les prophètes de Baal qui agissent, et donc ça marche pas, donc ils se livrent à toutes sortes de rites, de scarification, d'automutilation, hein, ça marche pas. Et ensuite, ça marche tout de suite avec le prophète Élie. Et le prophète Élie ensuite s'adresse à Dieu en leur disant « Pardonne-leur parce que leur cœur est à l'envers. » Chose comme ça. Ouais, cette idée de l'envers. Et le Malbim, qui est un grand commentateur du 19e, dit « Leur cœur est à l'envers. » C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas un jugement moral. C'est juste qu'ils ne sont capables de comprendre Dieu que si on leur apporte des preuves physiques. Donc il fallait leur montrer ça pour leur prouver Dieu. Alors qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de preuves. C'est-à-dire, si on était dans un modèle intellectuel idéal, il y aurait une connaissance intuitive de l'existence divine comme une nécessité absolue, comme veut le démontrer Maïmonide à la suite de tous les autres théologiens de cette époque-là, d'accord, que l'existence divine est nécessaire et donc s'impose nécessairement à l'intellect, et de là découle tout le reste. Il dit, bon, on est dans une histoire humaine où les gens ont besoin de voir pourquoi. Et donc, pourquoi est-ce que cette lumière-là... Donc, cette lumière-là, on comprend que c'est, pour le dire rapidement, l'intellect agent, si on veut parler comme Aristote. C'est ce qui permettrait une connaissance intuitive totale de l'ensemble du réel.
Sans les lunettes.
On est une famille à lunettes chez nous aussi. Donc, Hineke Ruhanita, donc c'était une lumière spirituelle. Achlo ke ora elyon mamash. Mais ce n'était pas non plus la lumière suprême, la lumière primordiale. Absolument première, c'est déjà une lumière dérivée, cette lumière intellectuelle.
Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la lumière primordiale?
Alors, parce que, voilà, c'est justement ce qu'il va dire. Sheimken, lo hayu yechonim bene adam lesovlo. Parce que c'est la lumière proprement divine, on va dire, même intellectuellement, l'être humain n'est pas capable de la supporter. C'est-à-dire de la même manière que une lumière trop intense rend aveugle au lieu de permettre de voir, de la même manière une lumière intellectuelle trop intense plonge dans l'étonnement plus qu'elle ne permet de saisir le réel. Velo ayalo yahes haidero al shelo zahu ki im al shelo yechalo yisoblo. Et donc si la lumière dont on parle ici, cette lumière intellectuelle, était identique à la lumière divine dans toute son intensité, le Midrash n'aurait pas dû dire elle a été cachée parce que les hommes ne l'ont pas méritée. Il aurait fallu dire elle a été cachée parce que les hommes ne pouvaient pas la supporter. D'accord ? Mais ce n'est pas une question de mérite moral ou pas. C'est une question d'impossibilité, d'incommensurabilité irréductible quelque part entre l'intellect humain aussi omniscient puisse-t-il être et le caractère absolument infini de l'intellect divin.
Alors, je Désolée, mais là on parle de la lumière de ce verset-là, mais l'homme, on est d'accord, il n'est toujours pas créé.
Non.
En fait, on est un peu anachronique là en disant